Bonjour, nous venons tout juste de terminer trois sessions de travail des ministres de la Défense de l'OTAN. La posture de dissuasion et de défense a atteint son plus haut niveau. Nous avons à notre disposition des capacités conventionnelles, mais également la dimension de défense antimissile et la dimension nucléaire et de défense cyber. Alors aujourd'hui, le groupe de planification nucléaire s'est réuni pour parler de la sécurité, de l'efficacité de la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Pendant le déjeuner, nous avons parlé du partage du fardeau à l'échelle de l'Alliance et nous avons réalisé des progrès de taille. C'est la troisième année consécutive où il y a eu des augmentations de dépenses dans le secteur de la défense, et c'est vrai pour les alliés européens comme pour le Canada, ce qui représente une augmentation de près de 46 milliards de dollars américains depuis 2015. Aujourd'hui, nous vous donnons un complément d'information sur les dépenses en matière de défense. En 2017, 25 alliés vont augmenter leurs dépenses de défense en termes réels. Cette année, la Roumanie va dépenser 2% du PIB sur la défense et va se joindre aux 5 pays qui ont déjà atteint ce jalon. L'an prochain, la Lituanie et la Lettonie vont se joindre au groupe et vont également dépenser au moins 2% de leur PIB dans le secteur de la défense. Quand on parle du partage du fardeau, on parle des contributions financières, mais également d'autres contributions. Aujourd'hui, les alliés ont accepté des nouvelles cibles capacitaires de l'OTAN, ce qui veut dire que nous allons en faire davantage en matière d'équipements lourds, de forces et de ravitaillement dans les airs. La haute représentative Frederica Mogherini s'est joint à nous pendant le déjeuner. Il y avait également les ministres de la Finlande et de la Suède. J'ai présenté notre rapport de point de situation qui porte sur la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, que j'ai moi-même rédigé avec Madame Mogherini. C'est dans le domaine de la cyberdéfense que notre coopération a été très utile. Nous avons maintenant des équipes de réaction en cas d'incident cyber qui partagent les informations pertinentes et qui peuvent réagir en temps réel. C'est exactement ce que nous avons fait pour contrer les attaques de mai. Aujourd'hui, nous allons bonifier notre coopération, y compris en ce qui a trait à la lutte contre le terrorisme. Les efforts déployés pour l'OTAN pour lutter contre le terrorisme, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant cette séance de travail. L'Alliance s'est jointe à la coalition globale pour lutter contre Daesh le mois dernier. Et nous avons déjà augmenté le partage d'informations collectées par les aéronefs AWACS qui ont été mises à la contribution de la coalition. Une cellule de renseignement en matière de terrorisme a été mise en place ici même au siège, ce qui nous permet d'échanger davantage d'informations dans ce domaine. Nous avons aussi le pôle pour le Sud qui va être mis en place pleinement. Ce sera une plaque tournante qui nous permettra de mieux comprendre quels sont les défis qui émanent de cette région. Ce pôle sera pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année. Pendant notre réunion de travail, nous avons parlé de notre posture de dissuasion et de défense renforcée. Comme j'ai pu le voir moi-même il y a quelques jours, notre EFP a atteint son plein niveau opérationnel en Estonie, Lettonie, Lituanie et en Pologne. Notre MDH en Pologne est maintenant actif, ce qui transmet un message très clair à tout agresseur potentiel. Nous sommes déterminés, nous sommes unis, nous sommes l'OTAN. Notre présence dans la région de la mer Noire a été renforcée un petit peu plus tôt cette semaine. Notre QG de notre brigade multinationale sud-est en Roumanie a été activé à titre d'organe militaire de l'OTAN à proprement parler. La brigade mène à bien des exercices et les aéronefs du Royaume-Uni assurent la patrouille de cette région. Par conséquent, on peut dire que l'OTAN redouble d'efforts à tous les niveaux, air, terre, mer et cyber. Nous sommes déterminés et nous protégerons nos populations respectives. Enfin, les chefs de l'OTAN ont décidé de se réunir dans le cadre d'un sommet l'an prochain. Je m'attends à ce que le sommet de 2018 soit ici, à Bruxelles même, en juillet. Voilà, maintenant je serai ravie de répondre à vos questions.
Julian Barnes,
Wall Street Journal. Pourriez-vous parler un petit peu des paquets capacitaires que les ministres de la Défense ont approuvés aujourd'hui? L'OTAN a été critiquée parce que ses forces seraient creuses, en sous-effectif ou en mauvais état de préparation. Est-ce que les paquets capacitaires entérinés aujourd'hui par les ministres de la Défense remédieront à cela? Est-ce que les forces de l'OTAN, en particulier les forces lourdes, seront plus prêtes? Et une question apparentée, comment pouvez-vous garantir que ce nouvel argent soit consacré vraiment aux capacités présentées aujourd'hui?
Il existe un lien étroit entre l'engagement en matière de défense-défense et les cibles capacitaires. Nous avons besoin de financements supplémentaires pour financer les nouvelles capacités. Par conséquent, c'est très encourageant de constater que nous redoublons d'efforts en matière de ressources financières et en matière de capacités. Il y a eu une augmentation de taille, 46 milliards de dollars américains sur 3 ans. C'est non négligeable. Ces budgets supplémentaires seront dépensés notamment sur de nouvelles capacités. Vous avez raison. Il s'agit de créer de nouvelles capacités, mais il s'agit également de renforcer des capacités qui existent déjà. En effet, il faut s'assurer que les bataillons, les divisions, les brigades, les unités militaires de l'OTAN soient pleinement pleinement les ressources dont ils ont besoin, que les ressources humaines soient pleinement formées et qu'il y ait suffisamment de ressources pour atteindre les objectifs de dissuasion de l'Alliance. Alors, il s'agit de ressources, d'effectifs, d'entraînement, de formation des unités qui existent déjà. Et il faut aussi livrer des unités supplémentaires, des formations air, terre, mer, cyber. Maintenant, à titre d'exemple, vous savez, il y a beaucoup de cibles capacitaires. Mais il faut mettre à disposition des capacités lourdes, des forces réactives, des capacités de haut niveau. Nous allons renforcer nos capacités de défense aérienne, par exemple. Nous allons, d'autre part, mettre à disposition davantage d'aéronefs qui peuvent opérer dans des zones qui sont bien défendues, c'est-à-dire qui sont assorties de capacités à 2AD. Enfin, nous allons augmenter le nombre de bâtiments de défense aérienne et je passe sous silence beaucoup de capacités qui sont absolument nécessaires étant donné l'évolution de l'environnement de sécurité.
Merci, Ana Bisonero, agence de presse espagnole. Quelle est la coopération avec l'UE dans la lutte contre le terrorisme? Comment est-ce que cela va se présenter? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Pensons à l'Irak. Vous pensez créer une mission de formation pour les forces nationales? Deuxième question, lorsque vous parlez de l'été pour le sommet prochain, en juillet?
En Norvège, on dit que le mois de juillet, effectivement, est un mois d'été. Donc c'est un candidat. Mais on n'a pas encore tranché. On commence les préparatifs, effectivement, mais il faudra qu'on décide de la date. Nous savons, par contre, que le sommet se déroulera à Bruxelles. On s'est mis d'accord là-dessus. Mais il faudra qu'on trouve une date. Donc, la décision formelle doit toujours être prise. L'OTAN a travaillé en collaboration avec l'Union européenne. pour contrer le terrorisme, et ce depuis bon nombre d'années. Nous avons travaillé ensemble en Afghanistan, par exemple. L'OTAN a travaillé dans un environnement très difficile. Je pense à l'opération de la FIAS. Je pense aussi à notre mission d'entraînement et d'aide au profit des forces armées. L'Union européenne a travaillé dans le cadre de missions de police, police du ciel en Afghanistan. Et il y a aussi du travail qui se fait au sein de la société civile, et j'en passe. Donc, je pense qu'on a beaucoup progressé, mais il reste du pain sur la planche. Je pense notamment au Kosovo, où nous avons déjà collaboré en étroite collaboration, et il y a la Bosnie-Herzégovine également. Alors, ça fait très longtemps que nous collaborons, mais nous sommes convaincus qu'on pourrait en faire plus, qu'on pourrait renforcer cette collaboration. En Irak, par exemple, l'Union européenne a annoncé que sa présence serait renforcée. L'OTAN a également décidé de renforcer ses activités en Irak en matière d'entraînement, de formation, de renforcement capacitaire, de formation des forces irakiennes. Donc nous devons coordonner nos activités de renforcement capacitaire, notamment. Pour ce qui est de notre présence en Méditerranée maintenant, je pense à l'opération Sea Guardian, l'opération maritime de l'OTAN. Donc, eh bien, nous travaillons en collaboration avec l'Union européenne dans cette région du monde. Donc, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous citer. Nous avons également collaboré dans le domaine cyber. Il faut savoir que quand il y a des attaques cyber, il n'y a pas de préavis. Alors, ça veut dire qu'il faut être en mesure de réagir sur le champ, réagir ensemble sur le champ. Et par conséquent, je salue les arrangements techniques qui ont été conclus, qui nous permettent de travailler ensemble pour réagir aux attaques cyber.
La télévision estonienne, avez-vous également parlé de la préparation russe pour les Zapad? Qu'est-ce que l'OTAN doit faire pour cette période?
L'exercice Zapad a été mentionné par bon nombre d'alliés. On en a également parlé lorsque j'étais en Lettonie, en Lituanie, la semaine dernière. Il s'agit d'un exercice d'envergure. Il s'agit d'un exemple de renforcement des activités militaires à proximité des frontières de l'OTAN. Tout pays a le droit de faire des exercices avec ses forces. Mais ce qui est important, c'est que ça se fasse de façon prévisible et transparente et conformément aux accords internationaux. Je pense notamment au document de Vienne qui exige un préavis si l'exercice va au-delà d'un certain seuil qui a été défini. On s'attend à ce que la Russie respecte ses obligations, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. On s'attend à ce que la Russie respecte ses responsabilités internationales en matière de transparence et permette à des observateurs de faire leur travail dans le cadre de cet exercice Zapad. L'OTAN, pour sa part, est toujours transparente. On ne fait pas exactement ce que fait la Russie, mais nous réagissons à la position plus agressive de la Russie. C'est pour ça que nous avons déployé des groupements tactiques sur le flanc est de l'Alliance. Et c'est pour ça aussi que nous menons à bien davantage d'exercices.
Quant à Zapad, vous attendez des Russes qu'ils respectent ces normes. Mais quelles sont les conséquences d'une non-conformité? Qu'en est-il de vos échanges au sujet d'un conseiller en Russie ici avant l'été? Deuxième question aussi. Vous parlez de cybercoopération, de partage de renseignements, d'efforts de lutte contre le terrorisme. Eh bien, que faites-vous pour améliorer la confiance entre alliés, afin qu'ils soient plus disposés à partager de l'information et du renseignement? Souvent, cela contraint ces efforts. Les gouvernements, les États veulent protéger leurs propres renseignements et il est difficile d'avoir des informations utilisables et partageables. Est-ce que vous travaillez dans ce sens également?
Pour Pour ce qui est du renseignement, nous venons tout juste de créer une nouvelle division du renseignement qui a pour objectif principal d'améliorer nos méthodes de partage de renseignements au sein de l'Alliance, mais qui devrait nous permettre d'analyser de façon plus efficace les renseignements dont nous disposons. Nous avons également une nouvelle cellule du renseignement qui nous permettra de mieux contrer les menaces. Donc, c'est vrai que nous améliorons nos procédures d'échange de renseignements et il est clair qu'on exhorte les alliés à partager leurs renseignements les uns avec les autres. Pour ce qui est de l'exercice ZAPAD, je m'attends ou j'exhorte la Russie à respecter le document de Vienne. Il s'agit d'un document qui est important, qui a pour objectif principal de s'assurer qu'il y a et transparence et prévisibilité en ce qui a trait aux exercices militaires. Nous respectons le document de Vienne de notre côté, mais nous avons constaté que la Russie a profité d'échappatoires divers, n'a pas donné les préavis nécessaires, n'a pas facilité les observations de ces exercices, et ce depuis bon nombre d'années. Plus il y a d'exercices, plus le document de Vienne prend d'importance. Nous avons également demandé qu'il y ait un briefing sur l'exercice ZAPAD de 2017 au Conseil OTAN-Russie. Et normalement, il devrait y avoir une réunion avant la pause estivale. Nous avons proposé diverses dates à la Russie. Nous espérons que la Russie va être d'accord avec les dates proposées et les points qui devraient figurer à l'ordre du jour. Nous espérons qu'il y aura donc une réunion du Conseil OTAN-Russie. C'est vrai qu'il y a eu des réunions avec des briefings sur la posture militaire et sur les exercices. Mais maintenant, nous voudrions des exposés sur les exercices à venir. Et justement, nous pensons notamment à l'exercice ZAPAD de 2017.
Agence TASS. Monsieur le secrétaire général, le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, sera à Bruxelles le 12 juillet. Est-ce que vous prévoyez des échanges avec lui ici à l'OTAN?
Foreign Minister Lavrov.
J'ai rencontré le ministre Lavrov à plusieurs reprises, à diverses occasions, mais pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de nous rencontrer lorsqu'il sera à Bruxelles.
Le soir, vous avez parlé de cyberattaque il y a 2 jours. Pourriez-vous nous parler davantage de votre évaluation des faits? Qui est derrière ces attaques? Est-ce que l'Ukraine était vraiment la cible? Quelle est la valeur ajoutée réelle de la coopération avec l'Union européenne dans ce domaine?
La valeur ajoutée, eh bien, c'est que nos équipes, nos experts sont en mesure de collaborer avec les équipes et les experts de l'Union européenne et d'échanger les informations pertinentes. Ça se fait en temps réel, ça se fait dès qu'on se rend compte qu'il y a une attaque qui a lieu. Évidemment, du côté pratico-pratique, nous avons des mesures qui sont la responsabilité des États membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Pour ce qui est des alliés de l'OTAN, maintenant, l'Alliance les aide à renforcer leur protection cyber. Nous avons aussi des partenaires. L'Ukraine, par exemple, a été ciblée par la cyberattaque cette semaine. L'OTAN a des activités, des programmes, des budgets, le fonds d'affectation spéciale pour renforcer les défenses cyber de l'Ukraine. Nous avons également un centre d'excellence pour la cyberdéfense où nous échangeons les pratiques exemplaires, où nous échangeons les technologies pertinentes. Nous avons plusieurs alliés qui ont développé des technologies qui sont très performantes à cet égard. Donc, nous partageons nos technologies, nos expériences, mais ça ne se résume pas à ça. Nous avons aussi des exercices et puis nous collaborons lorsqu'il y a des attaques comme celles qu'on a vues la semaine dernière.
Radio allemande. Je sais que la session sur l'Afghanistan va suivre, mais c'est une question générale. Je suis sûr que vous y répondrez facilement. Qu'est-ce qui vous garantit que les troupes supplémentaires que vous avez annoncées vont renverser la tendance de l'expansion des talibans en Afghanistan? Est-ce que prospectivement, vous diriez qu'il était une erreur de retirer les troupes combattantes en 2014?
Non, c'était la bonne décision. Je pense qu'on aurait même dû le faire avant. On aurait dû commencer avant. On aurait dû commencer la formation et l'entraînement plus tôt pour que les Afghans puissent assurer leur propre sécurité. Ce n'était pas une mauvaise décision de mettre un terme à cette opération de combat pour plutôt mettre en place une initiative de formation et d'entraînement. Parce que je pense qu'à long terme, ce sera beaucoup plus efficace, hein, de permettre aux Afghans d'assurer leur propre sécurité et de lutter contre les talibans au lieu d'avoir un grand nombre de militaires, hein, du Royaume-Uni et des autres pays alliés sur le terrain en Afghanistan. Je suis convaincue qu'il faut permettre aux forces locales de stabiliser leur propre pays plutôt que de demander aux troupes de combat d'intervenir. Alors, je dirais qu'on aurait dû assumer cette transition plus rapidement, de façon plus précoce. Maintenant, notre objectif, c'est de ne pas revenir en arrière pour encore avoir une opération de combat. Ce qu'on tente de faire, c'est de renforcer, par le biais de notre mission de conseil et d'assistante, de renforcer les structures. Et nous nous intéressons au SOF parce que nous savons que ces forces sont essentielles pour lutter contre les talibans et pour les autres groupes terroristes. Ensuite, nous avons les forces aériennes. Ils ont besoin de plus d'aéronefs, d'hélicoptères pour le soutien rapproché, mais également pour l'évacuation médicale. Et ensuite, il y a le leadership. Comment est-ce qu'on peut renforcer les institutions d'enseignement militaire? Nous ne pensons pas que la situation en Afghanistan sera facile à régler. Nous ne pensons pas que les conflits sont une chose du passé. Nous savons que la situation ne va pas se régler du jour au lendemain. Par contre, nous avons constaté que les Afghans sont professionnels, sont engagés, veulent lutter contre les talibans, veulent stabiliser leur pays. Et nous sommes convaincus qu'à long terme, il faut qu'il y ait une solution politique négociée pour mettre un terme au conflit en Afghanistan, qui relève des autorités afghanes. Mais en étroite... Mais nous savons qu'il y a un lien étroit entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe au sein de la sphère politique. Aussi longtemps que les talibans pensent qu'ils vont pouvoir gagner la guerre, eh bien, ils refuseront de négocier. Par conséquent, il nous faut des avancées en Afghanistan. Il faut remettre la main sur le terrain perdu. Et il faut forcer les talibans à faire des concessions à la table de négociation, ce qui devrait nous permettre de trouver une solution politique au problème.